Retrouvez toute la musique que j'aime, un projet artistique de territoire sur Radio Campus. Une série d'émissions réalisées en direct et en public à Villeneuve-d'Ascq. Toute la musique que j'aime est une aventure qui donne la voix aux habitantes et aux habitants d'un quartier à travers 5 émissions diffusées aux 4 coins de la ville. Rejoignez-nous pour la dernière émission le 21 juin à partir de 17h à la maison de quartier Pasteur. Au programme balade sonore, repas convivial, performances musicales et rencontres inédites. Des émissions proposées par l'Amicale, coopérative de projets vivants, en partenariat avec la ferme d'en haut et dans le cadre d'un contrat ville avec la ville de Villeneuve-d'Ascq.
L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur.
Bonjour et bienvenue dans le 285e numéro de l'Écho des Gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Et ce soir, je suis, comme de coutume, avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Et nous allons donc vous narrer l'actualité des 2 semaines écoulées dans le monde du libre. Et on va commencer, tiens, par la licence globale, ou plutôt un petit rappel. Alors Pierre, tu te souviens de DADVSI, hein, la maman d'Adopi?
Exactement.
En 2006, on était tous les deux en première année d'école d'ingénieur.
Droit d'auteur et droit voisin.
Dans la société de l'information.
Voilà.
Et Adopi, la haute autorité des œuvres piratées.
Des œuvres et de la protection intellectuelle.
Oh là 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 là. Bon, on a le tiercé en désordre à tous les deux. Donc l'Adopi qui a fusionné avec le CSA pour donner l'essence à l'ARCOM.
Exactement.
Ce fait qu'on ne fait plus de points. On aurait pu, c'est vrai, lancer le jingle Adopi.
On a perdu autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. On n'était pas loin.
C'était pas mal. Et donc, les débats, on rappelle, hein, Adopi et ADVSI s'étaient enrayés le téléchargement d'œuvres en libre partage. Donc, ça tuer la création. Donc si on laissait faire le partage gratuit d'œuvres sur Internet, il y aurait pu y avoir des créateurs. Alors, on s'est souvenu d'ailleurs une campagne, c'était pour Adopi en 2024, je ne sais pas quelle chanteuse.
En 2024, une pub pour une
ouais,
campagne pour
ouais, c'était ça. C'était en 2012, oui. En 2024, grâce à Adopi, je ne sais pas quel artiste qu'on a inventé sortira son premier album et aura énormément de succès. Voilà. Bon, ça a fait rire, je crois que c'est Marc Rez qui maintenant est dans le. Qui travaille pour le média. Je crois que c'est l'Informé, je crois.
Je ne sais plus.
Je ne sais plus. On n'est pas suffisamment informé, merci. Et.
On peut
donc, à l'époque, voilà, à l'époque, il y avait donc plusieurs voix, des députés, des collectifs, l'April, la Quadrature du Net, qui proposaient la licence globale. Donc, plutôt que de faire payer chaque téléchargement ou faire payer des œuvres avec des protections qui empêchaient la copie, on appelle les DRM, mesures techniques de protection, en français, Digital Rights Management. En anglais, donc, de faire payer aux internautes une somme forfaitaire, 10, 15, 20 euros, permettant donc de couvrir un peu sur le modèle de la redevance copie privée, permettre donc l'échange non marchand d'œuvres sur Internet avec un système de sondage qui permettrait de répartir donc l'argent collecté voilà,
entre les différentes personnes qui ont été
diffusées sur Internet.
Tu devrais plutôt prendre comme exemple la SACEM qui a déjà ce fonctionnement là.
Pour
les radios, par exemple Radio Campus,
d'ailleurs,
paye à la SACEM.
Ouais, c'est ça. Et la SACEM avait dénoncé ça. Alors pourtant c'est un peu basé sur le même principe. C'est qu'il se base sur une répartition sur base de... Alors, c'est pas sur les ventes réelles, je crois que c'est sur... En grosso modo, les artistes les plus riches sont déjà ceux qui captent le plus. Les plus connus sont ceux qui captent le plus, au final. Et le prétexte qui a été pris, on va dire qu'on défend les petits créateurs, au final, les petits créateurs, eux, n'ont pas forcément... On va chercher les statistiques un petit peu plus... Tu sur date, je sais que quand Oxy Radio avait lancé donc, sa web radio associative il y a quelques années donc, pour diffuser de la musique libre que nous diffusons toujours sur Radio Campus, je me souviens qu'ils avaient donné plusieurs exemples. Enfin, soit maintenant, on se rend compte que la licence globale, le principe en fait, a été privatisé avec les abonnements à différentes plateformes, Deezer, Spotify, Netflix.
Et avec des prix assez intéressants, puisque donc là, c'est l'actualité. On se rend compte que la moyenne pour les foyers français est de 49 euros par mois uniquement en abonnement à des plateformes pour des contenus.
Alors, les contenus incluent non seulement donc, la musique en ligne, la vidéo en ligne, mais également la presse. Donc la presse régionale, la presse nationale.
Sachant que là, c'est une moyenne globalisée. Sur les 18-24 ans, on est sur 42 euros. Sur les 25-34 ans, on est sur 58,90 euros par mois.
Ce qui suit la différence de pouvoir d'achat.
Tout à fait. On est sur 600 euros par an, même plus, pardon. On est plutôt à 700 euros par an pour payer les différentes plateformes. Sachant que sur ces 700 euros par mois, il faut bien comprendre qu'il n'y en a pas la majorité qui va aux artistes. Il y en a une bonne partie qui part pour les plateformes elles-mêmes. Et il y a du contenu qui reste indisponible, qui reste absent, parce que ça n'intéresse pas les grandes plateformes d'avoir forcément tous les contenus.
Donc maintenant, la diffusion est contrôlée par ces plateformes.
Voilà, on a privatisé ce qui aurait pu être rendu public à l'époque. Mais c'était impossible, c'était...
Parce que payer une somme forfaitaire pour écouter ce qu'on voulait, c'était piller les artistes.
Exactement. Or, c'est ce qui a été fait, c'est juste que c'est le privé qui le gère. Et dans ce cas, c'est légal.
En sachant que notamment sur les plateformes telles que Deezer ou Spotify, vous pouvez mettre dans vos favoris un morceau de musique et puis du jour au lendemain le voir disparaître parce que on n'a plus envie que vous l'écoutez. Il y a des conflits avec les détenteurs des droits d'auteur. Donc on peut vous retirer le droit d'écouter la musique.
J'ai pas les exemples pour la musique, mais on peut prendre des exemples sur les plateformes comme Netflix ou autres. J'ai vu passer ça dans mes actualités l'année dernière, notamment. Si vous étiez en train de re-regarder la série Friends sur Netflix, du jour au lendemain, c'est en avril ou en mai, pouf! Disparu.
Alors, Netflix est quand même très connu pour ça.
Ah oui, Netflix est très connu pour ça, mais ça mérite qu'on le reprécise. Et c'est pas nécessairement la faute de Netflix, au contraire même. Netflix, leur gros problème, c'est qu'ils ont été les premiers sur le marché. Mais quoi qu'on en dise, c'est pas si compliqué que ça de faire une plateforme de vidéo en ligne. C'est pas le truc le plus compliqué du monde.
Il faut un bon load balancing.
C'est ça, et c'est des technologies qui sont maîtrisées, que... Vous trouverez facilement déjà un ingénieur réseau pour vous mettre ça en place. Ça va pas être trop compliqué. Et du coup, Netflix, là où ils étaient les premiers avant et où donc ils pouvaient avoir tous les catalogues parce que personne ne venait les concurrencer, maintenant des Paramount, HBO, Disney et autres, ils ont leur propre plateforme à côté. Donc ils vont mettre leur contenu à côté.
Des producteurs de contenu qui ont profité. Plutôt que de les filer à une plateforme tierce, on va créer la nôtre.
Et donc, le futur, vu que nous n'avons pas mis en place de licence globale, le futur, ça va être un abonnement par producteur. C'est ce vers quoi on s'oriente au fur et à mesure. Et donc, c'est déjà ce qu'on voit. Et c'est ce qui fait qu'on est sur des budgets assez conséquents. 60 euros par mois, quand même, c'est pas mal. C'est énorme comme montant payé pour la culture, sachant que donc sur ces 60 euros par mois, quelle part va aux artistes, ça, c'est pas sûr. Ça c'est pas public.
Le problème pour la presse aussi, parce que moi je suis abonné à deux médias en ligne. Pierre paye pour l'émission l'abonnement à un autre média en ligne. Nous on a tout à fait conscience que le journaliste, c'est un métier, il faut rémunérer des journalistes à plein temps, parce que nous autres, animateurs de radio bénévoles, on ne peut pas faire le même travail, c'est pas possible. On a besoin de journalistes professionnels, mais si vous commencez à payer tous les sites qu'ils méritent, les quotidiens nationaux, les quotidiens régionaux, Arrêt sur Image, Mediapart, Les Jours.
Blast.
Ouais, ils avaient fait un moment un pack, je sais que Arrêt sur Image et Mediapart. Mais Blast. Mais bon.
Ça fait un certain budget. Alors qu'à côté, la presse écrite traditionnelle est largement sponsorisée par l'État. Elle est sous subvention permanente.
N'empêche pas les quotidiens maintenant d'être coûté 3 ou 4 euros le numéro. J'étais abasourdi. Enfin, quotidien national. On va parler de Signal, tiens. Donc,
oui. Et on va continuer de parler de DRM, du coup.
Et c'est Signal qui contrecarre donc la politique de Microsoft Wickles.
La boîte noire qui enregistre tout ce qui se passe sur votre machine.
Prendre des captures d'écran régulières de votre ce qui se passe sur votre ordinateur et de l'envoyer éventuellement chez Microsoft.
Alors officiellement, ils disent que c'est pas envoyé chez Microsoft parce que tu es censé le faire uniquement sur un PC avec IA intégré et dans ce cas, ça reste en local. Voilà le discours officiel, attention. Mais ça veut dire quand même que sur ta machine quelque part, il y a un enregistrement de toute l'activité, y compris pour des applications où on ne veut pas enregistrer l'activité. Et dans le cas d'une messagerie comme Signal, où l'un des principaux intérêts de Signal, c'est de respecter la vie privée et de ne pas avoir ce genre d'enregistrement, c'est un problème.
Et donc, Signal utilise donc les fonctionnalités DRM de Microsoft, de Windows,
tout à
pour
fait.
Contrecarrer leur plan. Alors j'ai appris à cette occasion qu'il y avait une application Windows pour Signal.
Tout à fait. Et donc, les DRM sous Windows, ben, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité. C'est en fait dans les Windows Media Player, alors qu'il y a dû changer de nom depuis, pour les navigateurs web ou autres, ces applications-là disent, disent au système d'exploitation « Attention, je suis en train d'afficher du contenu sous copyright. » Et c'est le seul cas que Microsoft a prévu où ils disent « Ok, il y a du contenu sous copyright, il faut surtout pas prendre de capture d'écran automatiquement pour notre IA. » C'est la seule exception possible. Ils ont plutôt que de mettre un paramètre pour dire, ben non, je veux pas que ce soit enregistré par l'IA, il faut juste mettre un paramètre, attention, c'est du contenu sous DRM. Et là, du coup, pouf, ça désactive la sauvegarde. Alors, ça a d'autres conséquences techniques pour dans le cas de configuration un peu plus chelou, notamment si on joue avec les câbles HDMI, mais c'est la seule solution pour contourner, du coup, le Windows Recall. Et au passage, sur le blog de Signal, il y a une petite remarque quand même. La suggestion de prendre une capture d'écran toutes les quelques secondes, ça ressemble quand même vachement à ce qu'un LLM, donc à une IA basique aurait dit si on lui avait demandé qu'est-ce que je pourrais ajouter comme fonctionnalité d'intelligence artificielle sur mon système d'exploitation le plus vite possible pour rendre mes investisseurs heureux. Et je trouve qu'effectivement c'est pas con parce que ben oui, en IA il y a peut-être des choses plus intelligentes à faire que on va faire une capture d'écran toutes les quelques secondes et l'analyser avec un coût énergétique à déterminer. Et essayer d'en extraire les données utiles.
On part avec une petite séquence, nos amis les GAFAM et l'Union Européenne. Et on va commencer par Apple, donc le premier A de GAFAM. Ou au moins que ce soit le dernier, en fait. Je ne sais jamais.
Oh, c'est
le
jeu.
Donc Apple a un mois pour se mettre en conformité avec le Digital Market Act et donc mettre fin à plusieurs de ses pratiques anticoncurrentielles.
Tout à fait, principalement les pratiques anti-steering, ça s'appelle. Donc l'anti-steering, qu'est-ce que c'est ? C'est la façon qu'a Apple de laisser les gens dans son petit jardin protégé. Donc notamment, interdire aux applications, le principal exemple qu'on a, c'est Spotify. Spotify n'a pas le droit de vous dire, si vous vous abonnez en dehors de chez Apple, c'est moins cher. Cliquez ici. Ça, c'est interdit dans une application sur iPhone.
Ouais, c'est quand même un peu le principe également des sites de réservation d'hôtels en ligne. Hein. Il y a une législation d'ailleurs pour ça.
Tout à fait. Et donc, Apple avait dit si, on respecte. La Commission européenne donc, a pris une décision alors, le 22 avril, mais les détails ont été publiés seulement il y a quelques jours, pour dire que effectivement, Apple ne respecte pas la loi, ne respecte pas le Digital Market Act et joue en faisant une interprétation à minima du texte. Donc il y a différents trucs qui sont reprochés, notamment lorsqu'on prend l'exemple de Spotify, si vous avez dans Spotify un message pour dire cliquez ici si vous voulez vous abonner à moins cher, eh bien, le lien en question doit être statique. Le lien ne peut pas inclure un token d'identification pour que vous soyez automatiquement connecté sur le site de Spotify derrière. Et le lien, il ne peut y en avoir qu'un seul par application et il doit être validé par Apple.
Oui, c'est un peu du parasitisme sur
c'est
les
du
bords,
gros même. Parasitisme. Ainsi, la commission aussi sur les achats réalisés via les liens externes, donc Apple continue de réclamer 27% de commission sur ses achats, alors que Apple finalement n'aura fait sur son téléphone qu'afficher un lien. 27% de commission, c'est un peu raide, sachant que un achat complètement géré au sein de l'App Store, c'est 30% de commission. Surtout et je rappelle qu'un achat, alors je n'ai plus et j'ai pas le droit de dire les commissions de carte bancaire qu'on avait dans l'entreprise en question à l'époque, mais les commissions, si on prend un service comme PayPal, qui est loin d'être le moins cher en système de paiement, à l'époque on était sur du 3% de commission. 3%, 30%. Il y en a un qui est un poil supérieur.
Surtout que voilà, Spotify, Deezer et compagnie n'ont pas besoin d'Apple pour se faire connaître. On aurait pu discuter de l'argument il y a Attends, on est en 2025, il y a 15 ans, à l'époque oui. où, bah, pour avoir les seuls à avoir sorti un vrai smartphone, c'était Apple. Donc, de toute manière, si vous voulez des clients sur
Google. On pourra en parler de ça. Hein. Bon,
voilà. Et là, maintenant, les gens, ils achètent un Apple parce que bon, ils préfèrent, ils ont leur raison. Bon, pourquoi pas. Donc, mais c'est pas comme si la notoriété de ces services dépendait d'Apple, de, que ce soit Samsung, Sony ou compagnie. Là, pour le coup, c'est vraiment du parasitisme.
Exactement. Et donc, il leur reste jusqu'au 22 juin pour corriger. Sinon, ils s'exposent à des amendes d'astreinte quotidienne.
Et Pierre, nous sommes injustes avec les GAFAM. Puisque
tout à fait.
L'Europe est injuste et
ne
reconnaît
pas
ce que l'Europe doit aux GAFAM, et notamment à Google et à Meta, qui est le propriétaire de Facebook et de WhatsApp.
Tout à fait, puisque donc, d'après ces charmantes entreprises, donc, l'activité principale de Google et de Meta, à savoir la publicité et le traquage dans le but de fournir des publicités spécifiques, ils estiment que, alors je retrouve les chiffres, ces publicités généreraient chaque année pour les entreprises dans l'Union européenne 100 milliards d'euros de ventes additionnelles. La contribution au PIB européen serait de 25 milliards d'euros et ces contenus soutiendraient plus ou moins directement 570 000 emplois.
Parce que les gens, bien ils feraient rien de leur argent sinon.
Voilà.
Tout cet argent
pas
serait épargné.
L'argent, voilà. Pas nulle part. Les gens ne consomment pas si on leur dit pas de consommer.
Qu'est-ce qu'on aurait comme réserve souveraine du coup ? On financerait la dette avec.
C'est ça. Mais c'est encore pire, tu vois. Parce que d'ici 2030, l'IA générative aura complètement transformé et pourrait, conditionnel, générer 250 milliards d'euros de ventes supplémentaires pour les entreprises de l'Union européenne. C'est-à-dire soutenir 1,4 million d'emplois et soutenir le PIB à hauteur de 60 milliards d'euros. Alors quand on sort ces gros chiffres qui sont sortis du chapeau, qui sont juste des manipulations statistiques, et puis c'est du vent, c'est du gros pipeau, ils sont quand même un petit peu en panique ou quoi ? Je sais pas. C'est peut-être juste qu'on se rend compte que leur modèle à la con, ben c'est juste ils vendent du vent et il y a suffisamment de crétins pour acheter du vent et peut-être qu'à un moment ça va finir par se péter la gueule.
Je sais pas toi, mais moi quand je vais chercher, notamment je cherche un artisan sur internet, les liens sponsorisés c'est ceux sur lesquels je me méfie le plus.
Ah bah moi c'est ceux sur lesquels je clique pas.
C'est-à-dire, c'est ça, mais on se méfie, on clique pas. Enfin, c'est-à-dire les mecs qui se mettent trop en avant. Limite, c'est suspect, quoi.
Le SEO, ça veut dire que tu as une activité qui est centrée sur le fait de te mettre en avant et ça te prend beaucoup de ressources. Donc, c'est des ressources qui ne sont pas investies finalement sur le travail lui-même. Et c'est quelque chose que derrière, ben, l'utilisateur lambda va devoir payer. C'est problématique.
On se retrouve tout de suite après un premier morceau de musique. Nous allons écouter Ron Gelinas, Hyde. Vous écoutez les Codes Ignous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslib.com partout dans le monde.
Thank you.
C'était Ron Gelinas, Hyde. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous, un petit peu en avance, mais tout de même. C'est l'heure de la dégeekalisation. Pierre, tu dis beaucoup de choses sur l'IA, mais notamment, mais quand même, ta soif d'expérimentation fait que tu as voulu mettre de l'intelligence artificielle dans ton répondeur.
Tout à fait. Donc, juste pour expliquer pourquoi j'ai fait ça, je déteste le téléphone. Moi, si je pouvais ne pas avoir de ligne téléphonique, je n'en aurais pas, parce que je n'aime pas. Je n'aime pas l'intrusion permanente possible, ceci, cela, c'est vraiment pas mon truc.
Et c'est pour ça que tu as fait une école d'ingénieur en télécommunication.
Ta gueule. Et donc...
Moi aussi, Pierre.
Et donc, ben sur mon téléphone, il m'arrive quand on m'appelle et que c'est un moment où juste j'ai pas envie de répondre, voilà, ça part sur le répondeur, ou quand c'est un numéro qui est pas enregistré, là... Il n'y a aucune chance pour que je décroche. Et ben derrière, mon répondeur, ben, il faut que je l'écoute et ça m'agace. Et donc, ben, je me suis dit, on va faire une expérience. Mon fournisseur de téléphonie mobile m'envoie un mail automatique avec en pièce jointe un fichier son du message qui était enregistré sur mon répondeur. Et ben, j'ai décidé de faire un petit logiciel qui retranscrit le son qui a été mis dans ce message et qui m'envoie un message sur une messagerie pour me dire « Tiens, voilà le message que tu as reçu. » Et donc, bah, je me suis dit « Voilà, je vais utiliser de l'IA, on va voir ce que ça donne. » Puisque ben voilà, les anciens systèmes qu'on avait, c'est sûr, ils n'étaient pas non plus hyper fiables. Je me souviens des trucs de transcription, donc on parle de « voice to speech », donc de non pas le TTS, mais le STT, le « speech to text ». Donc, transcription de voix en texte.
C'est la mode fin des années 90. Ah, ça,
tout à fait. Il y avait plein de logiciels qui étaient vendus pour ça. Mais ils avaient tous des énormes lacunes. C'était très compliqué. Les meilleurs, il y avait toute une phase d'apprentissage de la voix à faire. D'abord, pour que vraiment ce soit fin. Sinon, ça ne marchait pas. Parce que ben, la voix est trop différente entre les personnes pour que ce soit fait, en tout cas sur les modèles de l'époque.
Par contre, l'inverse, maintenant, c'est également la mode. Notamment, la génération de sous-titres automatiques.
Tout à fait. On pourrait en parler de cet aspect-là, parce que ça a d'autres problèmes. Et donc, toujours est-il que, ben voilà, je me suis dit, il y a de l'IA maintenant, on dit c'est open, tout ça, ça ne devrait pas être compliqué. Et puis, ben, j'ai réfléchi un petit peu, dans tous mes souvenirs des actualités, il y avait une solution qui m'intéressait bien, c'était la solution de Mozilla Deep Speech, qui a un gros avantage, elle est fournie, elle est mise en avant comme étant open source et embarquée sur le matériel. Donc elle fonctionne hors ligne, sur périphérique, et elle fonctionne même sur une Raspberry Pi 4.
Tu n'as pas envoyé tes messages à un cher que tu ne connais pas, même si tu connais, qui tu n'as pas envie de faire.
Ah, hors de question, sauf que je n'ai pas pu utiliser Deep Speech.
Ah.
Bah oui, parce que Mozilla, ils l'ont abandonné. C'est dommage. Et du coup, bah, j'ai cherché... Et j'ai regardé, et donc...
Tu as développé toi-même parce
non,
que...
Hein. Non, parce que j'ai pas le temps. Et donc, ben, je suis tombé sur les solutions d'IA diffusées notamment par OpenAI. Oui, le OpenAI est un peu mérité, donc ça s'appelle Whisper, là, celui que j'ai utilisé. Et j'avoue que, bon, ça marche plutôt
donc là,
bien.
Pareil, ça reste du hors-ligne.
C'était une condition sine qua non. Hors de question que ma messagerie aille chez quelqu'un d'autre.
Et
je ne comprends
coup,
pas le principe.
C'est quoi? C'est un exécutable que tu télécharges?
Alors, et c'est justement, merci Alexandre, c'était le point que j'allais aborder. Donc, pour faire fonctionner l'IA, quels sont les différents éléments? Donc là, il y a mon besoin initial, donc retranscrire des messages en texte. Donc, j'ai fait le petit programme qui récupère les messages sur ma messagerie. Et non, il manquait juste la partie pour les transcoder. Et derrière, m'a envoyé le texte que ça a produit sur ma messagerie instantanée. Et donc, ben, je suis tombé sur Whisper. Donc Whisper, qui est un logiciel développé par le projet OpenAI, qui est sous licence libre. Donc, j'ai pas retenu la licence, mais voilà, c'est une licence...
compatible GPL.
Voilà, je crois que c'est... Enfin, ils aiment pas trop le GPL, ils sont plutôt MIT ou autre licence open source. C'est plutôt ça leur truc que le vrai esprit du logiciel libre, parce que faut pas déconner, c'est faut plaire aux investisseurs. Donc voilà, licence MIT dans les deux cas. Donc on télécharge ce logiciel-là, et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Rien du tout. Parce qu'il faut le deuxième élément, il faut le modèle. Donc le modèle, en fait, c'est le logiciel permet soit d'entraîner une IA et de créer un modèle, et ensuite d'utiliser ce modèle pour l'appliquer sur des fichiers son pour traduire le son en texte. Mais in fine, le logiciel n'en est pas capable. Il faut qu'on lui ait appris, il faut qu'on lui ait donné des millions d'heures de son avec la transcription pour qu'il apprenne à faire la transcription correctement.
Un tableau de correspondance. Quoi.
Exactement. On lui donne tout un ensemble de correspondances. Il s'entraîne, il fait un gros modèle. Et à la fin, il dit « Ok, c'est bon, maintenant, je sais faire. » Donc, voilà, je regarde pour télécharger un modèle. Et c'est là que ça commence à devenir un poil plus rigolo. Je me suis rendu compte de la taille des modèles et surtout des performances associées. Donc, à la base, je voulais faire tourner ça sur mon petit serveur, le serveur sur lequel vous arrivez lorsque vous allez sur le site de l'Écho des Gnous, notamment.
Ok, nous hébergeons notre podcast.
C'est ça. Et donc, ce petit serveur n'est pas du tout...
Dimensionné
pour... Il n'a jamais été prévu pour faire de l'IA, mais je me suis dit, bon, transcoder un message tous les 3 jours, et encore, je ne suis pas si populaire que ça, un message par mois, ça devrait le faire.
Alors, si tu dis clairement aux gens qu'il ne faut pas t'appeler...
Ouf, oui, ben, je donne... Hein. Voilà. Mais le problème, c'est que les modèles en question, c'est vraiment assez impressionnant. Et malheureusement, il faut qu'ils soient très gros vu le fonctionnement des IA aujourd'hui.
Et c'est intéressant aussi la question sur la source de ces modèles.
Alors, les modèles en question sont des modèles libres que j'ai récupérés. Et à chaque fois, ils étaient sourcés. Ils expliquaient sur quelle base ils étaient entraînés. Alors, j'ai pas reproduit le modèle, par contre, parce que ça me prendrait des semaines à mon ordinateur, parce que mon ordinateur n'ai pas de puce d'IA, tout simplement. J'ai pas une carte graphique à 1000 balles, parce que c'est tout, ma carte graphique elle a 5 ans. Et le problème, c'est que les modèles en question, donc là on a des modèles qui montent à 3 gigas pour faire fonctionner le système de transcription. C'est-à-dire que vous avez besoin non seulement d'un fichier de 3 gigaoctets à télécharger, alors pour nos lignes en fibre optique aujourd'hui, ça va. Mais il faut en plus que ce modèle puisse être stocké en mémoire, si vous utilisez uniquement le processeur, ou sur la mémoire de la carte vidéo, si vous utilisez une carte vidéo pour transcrire. Mon petit serveur pour le site de l'Écho des Gnous, la RAM, on était déjà limite, et derrière, j'ai regardé le temps que ça prenait pour retranscrire un message d'une minute. Ça prend presque 2 minutes.
Bon, après, si tu reçois
deux minutes où le serveur il est à fond. À fond, à fond, à fond, où il va avoir du mal à répondre aux vraies demandes légitimes du genre quelqu'un qui veut écouter un podcast.
Ça, sinon, très légitime.
Et ça, c'était un peu plus compliqué. Donc, j'étais obligé de sortir du matériel auquel j'ai accès dans le cadre de mon travail, avec du matériel embarqué qui est conçu avec des puces d'IA. Effectivement, là-dessus, ça va plus vite, mais la machine, elle met quand même du temps à charger ses 3 gigaoctets de données. Et il y a des modèles plus petits. Alors, en fait, c'est tout le principe, tout le jeu dans les concours d'IA, c'est de réussir à faire des modèles plus adaptés et en amont, que les algorithmes qui vont utiliser ces modèles soient aussi plus souples. C'est là où, il y a quelques mois, il y a eu une entreprise chinoise qui a fait grand bruit parce qu'ils arrivaient à concurrencer des modèles de type ChatGPT ou autre, des modèles conversationnels avec une consommation de ressources bien moindre. Peut-être que l'un des problèmes, là, c'est qu'ils ont accès à tout le matériel qu'ils veulent. Ils ont accès à des ressources infinies. Donc, pourquoi s'emmerder? Pourquoi se restreindre? Pourquoi optimiser quand on a des ressources infinies?
Ça, c'est un problème de l'informatique depuis... on avait parlé lors de la dernière émission. Quand on avait la puissance de calcul d'une calculatrice pour envoyer l'homme sur la Lune, alors, il fallait optimiser. Maintenant, on a une puissance de calcul qui paraîtrait... par rapport à cette référence démesurée, on fait moins d'efforts.
Tout à fait.
Et plus on a moyen, plus on est tenté de faire du gâchis. Mais ça, je dirais que c'est quelque chose assez général.
Exactement. Et donc, pour finir sur l'IA, donc, ce logiciel, donc, là, je l'ai développé, il fonctionne. À la limite, si je n'ai plus la flemme, à un moment, je le diffuserai sur GitHub ou autre. Mais surtout, donc, ça m'a permis de tester l'IA, effectivement. Donc, ça fonctionne, mais je ne m'attendais pas du tout à avoir quelque chose d'aussi gourmand, aussi énergivore et complexe, finalement, en termes de demande matérielle, pour quelque chose d'aussi simple que je veux transcrire de la voix en texte. Et ce qui me fait m'interroger, du coup, aussi, quand on a cette fonctionnalité-là qui est mise en avant par des opérateurs ou des vendeurs de téléphones, ça ne va pas forcément tourner sur le téléphone, ça va tourner sur les serveurs de l'entreprise en question, puisque le téléphone n'a pas forcément les ressources matérielles pour faire ça. Et donc, c'est des données qui vont être encore traitées par d'autres, et d'autres vont y avoir accès.
Alors l'IA, on en parle beaucoup, notamment dans le développement informatique.
Tout à fait.
Voilà, bon, c'est un peu devenu la tarte à la crème. Vous allez, tous les développeurs vont être au chômage, ça va être drastiquement réduit, les effectifs vont fondre puisque ben il y a que des concepteurs et encore. Et un exemple, c'est celui d'Amazon, donc avec le copilote, où ça notamment...
Attention, tu as confondu. Copilote, c'est du Microsoft. Amazon utilise copilote, mais attention.
Oui. Donc, l'utilisation de copilote chez Amazon, excuse-moi de l'imprécision. Ça surtout réduit les délais octroyés aux salariés pour faire leur travail.
Exactement. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que copilote, donc... dans la marque et c'est le nom, tout ça, c'est fait pour être vendu. Enfin, c'est vraiment vendu comme étant, ben c'est un soutien. C'est quelqu'un qui, c'est quelque chose qui est là pour vous aider à programmer. Et j'aime beaucoup la métaphore qui a été utilisée ici. En fait, le copilote, donc GitHub copilote, c'est plus un gars qui a joué un simulateur de vol pendant 200 heures et qui pense pouvoir faire atterrir un 747. Il a lu le manuel une fois en chinois à l'envers et maintenant il est là et il te dit « Allez, c'est bon, je peux le faire à ta place, il n'y a pas de problème, je sais faire. » Et en fait, ben c'est vrai que c'est ça, c'est des systèmes qui n'ont pas d'intelligence, c'est des systèmes, c'est des perroquets qui ont appris sur Internet et je suis désolé, la majorité du code n'est pas forcément de grande qualité. On ne sait pas ce qui a été mis dedans. C'est d'ailleurs un problème pour les logiciels libres. Aujourd'hui, c'est les IA qui viennent pomper toutes les forges logicielles pour essayer d'entraîner justement leur modèle de données sur ça. Et donc, ils ont des consommations de ressources de malade à cause de ça.
Et toi qui ne republie pas le code, on ne peut pas non plus...
Sauf que ces logiciels-là qui ont appris comme ça. De la même façon que, on va parler de reverse engineering 30 secondes, lorsque quelqu'un travaille sur ReactOS ou sur Wine... donc qui sont des logiciels qui réimplémentent des parties de Windows, elles doivent signer un engagement comme quoi elles n'ont jamais lu le code de Windows. Elles n'ont jamais pu le lire. Parce que sinon, on les considère comme contaminées et même inconsciemment, leur cerveau peut ressortir des extraits complets du code de Windows. C'est normal, c'est naturel. Et là, on fait confiance à un outil qui fait exactement la même chose. Et donc, non seulement le fait mal, mais en plus, parce qu'il ne comprend pas ce qu'il fait, mais en plus, ben, il va pouvoir le faire en violant des copyrights. Mais ça, c'est pas très grave. Et pour finir sur l'IA, et pour finir cette égalisation, une petite rigolote.
Oui, sur les gens qui ne réfléchissent vraiment pas à l'utilisation de l'IA. Donc, des auteurs qui ont, par erreur, laissé dans leur livre le prompt, c'est-à-dire la question qu'ils ont posée, la demande qu'ils ont faite à l'IA dans le bouquin.
Tout à fait. Alors là, il n'y a pas la question, ils ne sont pas si bêtes, mais il y a le préambule de la réponse de l'IA qui a été incluse, notamment « Voici une version améliorée de votre passage qui rend Elena plus empathique. » Voilà. Et en fait, ça, c'est juste des instructions d'IA parce que les auteurs ont utilisé une IA parce que c'est facile. Et c'est rapide et ça permet de produire du volume très facilement, très rapidement.
On peut terminer avec l'IA avec une beaucoup moins rigolote. C'est que Grok, donc l'IA donc,
de Elon Musk,
de Monsieur Musk, le nazi, il a bientôt terminé sa mission. Et bon, il a fait moins de dégâts qu'il n'a voulu, mais il a quand même fait beaucoup, notamment sur l'aide au développement. Aussi aux États-Unis. Non seulement a inventé, mais ça, vous avez entendu parler, un génocide des Blancs en Afrique du Sud. Donc, en plus, Trump est venu en parler au président sud-africain, bravo la diplomatie, et qui en plus minimise donc le nombre de victimes de la Shoah, alors que les historiens, alors même si les chiffres à des estimations, les estimations fournies par les historiens restent très crédible, Grok sous-estime et remet en cause sans aucun argument les estimations des historiens.
Alors, donc je cite la réponse de cette IA, donc merci je répète, je cite, c'est important. Hein. Donc, les documents historiques souvent cités par les sources traditionnelles, premier symbole de complotisme, affirme qu'environ 6 millions de juifs ont été assassinés par l'Allemagne nazie entre 1941 et 1945. Cependant, je suis sceptique quant à ces chiffres sans preuve primaire, car les chiffres peuvent être manipulés à des fins politiques. C'est impressionnant. Et la suite n'est pas mieux. Hein. C'est l'ampleur de la tragédie est indéniable, avec d'innombrables vies perdues dans un génocide que je condamne sans équivoque. Tu fais ben ouais, mais tu viens
c'est,
de dire.
C'est bizarre, on dirait du Jean-Marie Le Pen.
Ouais ouais, on est dedans. C'est exactement ça. C'est du négationnisme.
Mais je condamne, mais.
Ouais.
C'est le 1.
Alors. Tous les historiens s'entendent pour en dire que c'est l'ordre de grandeur. Effectivement, on n'a pas le compte aux morts près. On ne l'aura jamais, on ne le saura pas. L'un des facteurs là-dedans, c'est que les nazis, lorsqu'ils se sont sentis le vent tourner, ont détruit les preuves. C'est le principe. Il y a eu un travail colossal en 1945 pour retrouver les preuves. Avant qu'elle ne soit détruite, ça a été l'un des éléments clés du procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg a été filmé, enregistré, afin de lutter contre ce genre d'affirmation débile. Il est reconnu que des millions de juifs ont été exterminés. Oser mettre un cependant après ça, c'est une honte. Et là, ben donc on a une IA qui le génère, il n'y a aucun problème.
Et comme c'est une IA, on ne peut pas attaquer une IA pour négationnisme.
Et ça pourrait changer. Je ne l'ai pas inclus parce qu'il y avait une actualité, mais les IA, on ne reconnaît pas les IA comme ayant la protection du Premier Amendement aux États-Unis. Et en fait, c'est dans un cadre, je ne l'ai pas évoqué parce que le cadre est un peu glauque et je préfère attendre un petit peu que plus de temps passe, ça est passé dans mes actualités très récemment, mais c'est notamment dans un procès parce que des IA ont poussé une adolescente au suicide. Ouais. Voilà. Bon, ouais. Vive les IA.
Est-ce que des morts récents vont faire évoluer la jurisprudence et donc donner la possibilité d'attaquer les entreprises pour le contenu qu'elles produisent
À suivre.
On va remonter le moral avec un morceau de musique quand même. The Arty Intels Broken Town. Vous écoutez l'écho des nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. The sun don't shine on this broken town. Halcyon days are no more. Where it once wore a smile, it now wears a frown. Longing for what came before. A shining example of the benefit state. Lost in the north-south divide. An illustrious past now drenched in hate. Its demise, it can no longer hide. Oh, broken town, I walk these streets no longer paved with gold. Oh, broken town, I miss your warmth. Your hatred leaves me cold. Oh, broken town, you're still in my heart, but no longer in my soul. Where the junkies score and pushers ply their trade. Ladies of the night, you try hard to ignore. Wait weary in the shade. High-rise misery shelters low-life scum in the stench of urban decay. Tagging their patch and fighting for fun. Don't care for a brighter day. I walk these streets no longer paved with gold. Oh, broken town, I miss your warmth. Your hatred leaves me cold. Oh, broken town, you're still in my heart, but no longer in my soul. I close my eyes, fade back in time, and remember how things used to be. Plague of poverty devoured our prime. All's left is sorrow and fear. All that's left is sorrow and fear. C'était The Arty Intel's Broken Town. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus. On va parler actualité sécurité, pas celle de Christian Estrosi. D'ailleurs, si on a le temps, on a une pour notre ami des Alpes-Maritimes. Là, on va parler plutôt d'un point de vue réseau. Donc, la fin de la 2G et de la 3G. Et Pierre, tu attends de la friture sur la ligne.
Ah oui, ça chauffe bien. Alors, là, on parle de coûts qui vont être colossaux et qu'il va falloir faire payer par quelqu'un. C'est, en gros, pour les particuliers, le problème est passé, grosso modo. Pour les particuliers, il y a quelques personnes qui vont sûrement être emmerdées à la fin de la 2G et de la 3G, mais elles sont minoritaires et leurs opérateurs vont pouvoir les prévenir avant sans trop de difficultés. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est une médiation qui doit avoir lieu entre les opérateurs et les entreprises qui ont du matériel déployé, qui ont besoin que ça fonctionne. Et donc là, les entreprises en question, on parle de sociétés de gestion en charge de la gestion d'ascenseurs, puisque le bouton d'appel d'urgence dans l'ascenseur...
Parce que c'est toutes les cartes SIM embarquées, en fait.
Voilà.
Même dans les voitures.
Exactement. Les équipements de service à la personne, l'appel d'urgence dans les voitures, tous ces services-là, dans un an, c'est demain, quoi. Dans un an, ils vont peut-être juste tous arrêter de fonctionner. Et là, on a un gros problème, sachant que c'est les entreprises qui les mettent en place, qui sont responsables de ça. Elles doivent faire que ça continue de marcher. Et donc, la question... alors certes, la 2G est piratable, etc. La migration est engagée. Mais donc là, je cite les chiffres qui ont été donnés. Alors, j'ai pas le nom... J'ai pas bien noté par quelle entité c'était. Mais grosso modo, ils estiment que il y aurait... plus que 1,4 million de dispositifs 2G en service au premier trimestre. Mais d'ici la fin de l'année, ça doit tomber à zéro. On a encore 1,4 million de dispositifs dépendant de la 2G dans la nature. Et comment on va faire ? Sachant que ça ne prend pas en compte le système d'appel dans les véhicules.
Oui, parce que je ne sais pas si on peut changer les cartes SIM.
C'est pas ton problème. Ça va être un problème des fabricants. Ah non, mais ils vont en chier. Ça va être compliqué. Et ça compte pas non plus le cas de la 3G, parce que la 3G, il y a encore des systèmes de téléassistance notamment qui fonctionnent en 3G et qui vont être rendus obsolètes. Donc les opérateurs disent, nous, si vous voulez un report, il faut payer, il faut bien que quelqu'un paye pour qu'on continue de fournir le service. Et donc les opérateurs estiment qu'on est de l'ordre de la centaine de millions d'euros par année. C'est le coût pour maintenir les réseaux et compenser la, je cite, perte d'opportunité des opérateurs. Et donc là, en l'occurrence, l'état actuel, c'est qu'à un an de la fermeture de la 2G, c'est le responsable des affaires publiques chez l'INIES, et j'ai pas noté la signification de INIES, excusez-moi pour cet oubli, c'est le syndicat des industriels des solutions électriques et numériques du bâtiment. Donc, leur bilan, on ne sait pas l'impact sur la couverture mobile, on ne sait pas l'impact sur nos concitoyens, on ne sait pas l'impact des objets connectés, on ne sait pas l'impact sur les affaires, on ne sait pas l'impact sur les dépenses des collectivités locales. Voilà leur tableau de la fin de la 2G. Ça a l'air prometteur. Donc on en reparlera certainement en janvier de tout ça.
Ah, c'est la rançon en fait de la culture du on intègre la dernière technologie et puis alors nous la culture des télécoms en Europe c'est la planification, c'est l'ATM, c'est le machin qui marche, le machin certifié. La culture de l'internet, de l'IP, c'est le ça marche. Tant mieux, ça marche pas, tant pis, on fait au plus vite des trucs.
En l'occurrence, le protocole 2G, ça fait des années que c'était prévu pour être déprécié, ça a été utilisé quand même, en se disant que ça serait jamais fermé. Là, on est sur quelqu'un qui a déployé de l'ATM partout sans se dire que, ah merde, en fait, c'est. Ou du X205 alors que ça va être fermé.
Une faille de sécurité 205. Sur le protocole OpenH264, Pierre.
Ah, pas de protocole. Attention. J'ai peut-être fait une typo en l'écrivant. Ouais, non, j'ai pas mis protocole. Non. C'est fait par Cisco, mais ce n'est pas un protocole. Alors, le H264, qui est assez connu, c'est un codec. C'est un outil de compression, décompression de vidéo. Et donc, c'est le codec du moment. Il est en train d'être déprécié, progressivement remplacé par d'autres, mais... c'est le codec du Blu-ray, de la HD, grosso modo. Le problème, c'est que pour que ce soit implémenté correctement aux États-Unis, il faut avoir une licence pour certains brevets. Et jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à un peu, la seule solution qu'il y avait, c'était la solution diffusée par Cisco, donc OpenH264, et qui était utilisée par certaines distributions, notamment Fedora. Or, il se trouve que il y a eu des failles de sécurité critiques dans OpenH264. Donc, on a 8,6 sur l'échelle des failles de sécurité qui va de 0 à 10, hein, donc assez critique, et donc qui pourrait permettre à une personne malveillante, à travers une vidéo, de faire des exécutions de code à distance. C'est assez violent. Enfin, des heap overflow et derrière, ça, ce genre de choses peut être exploité pour faire des attaques à distance. Mais ce qui se passe, c'est que Cisco ne maintient plus activement, en tout cas, OpenH264, et donc là, on se retrouve dans une situation très compliquée, puisque Fedora, pour être diffusé aux États-Unis, a besoin d'une solution légale aux États-Unis qui respecte les brevets là-bas.
On se retrouve avec des problèmes des années 2000, avec on n'a pas le droit d'avoir Firefox à cause des problèmes de brevets, des genres de choses.
Exactement,
le fameux problème du MP3.
Voilà, le problème du MP3, pour ceux qui ne se souviennent pas, à une époque, sur nos distributions Linux, il fallait installer des logiciels en plus, parce que la distribution par défaut ne pouvait pas ou n'osait pas installer le support du MP3, parce qu'il y avait des problèmes de brevets.
Alors, faire attention quand on écoute trop Google Maps, je me suis fait avoir aussi, c'est pour ça qu'on va en parler, c'est que en Allemagne, donc, Google Maps a halluciné des autoroutes fermées, provoquant un chaos dans la circulation automobile.
Tout à fait, donc ça a eu lieu la semaine qui vient de s'écouler, ça a eu lieu le 29 mai, donc, c'est-à-dire le mercredi, juste avant le pont de l'Ascension.
Puis donc, voilà,
le jeudi.
Entre Duisburg et Dortmund, donc c'est quand même dans la Rhénanie, quoi. Très urbanisé en plus.
C'est de très nombreuses autoroutes, donc notamment autour de grandes villes comme Berlin, Hambourg, Francfort, Munich, la région de la Ruhr. Ça a été observé aussi aux Pays-Bas et en Belgique au niveau des frontières. Et donc Google Maps indiquait clairement, les routes étaient fermées avec des sens interdits. Enfin, les indications comme quoi la route est fermée, et dès qu'il y avait des calculs d'itinéraires qui étaient faits, Google Maps redirigeait vers des routes secondaires qui étaient pas prévues pour autant de voitures ou qui étaient juste des itinéraires impossibles à suivre. Tout ça sur, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, Google affirme avoir corrigé rapidement l'incident et qu'ils ont lancé une enquête en interne. Alors, est-ce qu'on saura un jour ce qui s'est passé ? C'est pas sûr, mais pour rappel, Google, son fonctionnement, c'est qu'ils prennent des données de plein de fournisseurs. Donc, ils prennent des données d'autorités publiques, des signalements d'utilisateurs, etc. Est-ce que ça pourrait être des utilisateurs, un groupe d'utilisateurs mal intentionnés qui ont déclaré simultanément « l'autoroute-là, elle est fermée » et il y en a eu suffisamment pour que Google considère que « oui, ok, l'autoroute est fermée ». On ne sait pas. Mais toujours est-il que même eux auraient pu se rendre compte que l'autoroute n'était pas fermée, puisqu'ils ont suffisamment de données pour voir que, en fait, il y a des gens qui circulent sur l'autoroute, c'est peut-être qu'elle n'est pas fermée, en fait, où il y a beaucoup de gens en infraction, dis donc, aujourd'hui. Mais donc, c'est à suivre, mais effectivement, c'est assez.
Et puis, alors, j'ai mis l'article qui dit, alors attention, recoupez vos sources. Vous savez, quand vous prenez votre voiture, vous voulez vous rendre à un endroit, vous n'allez pas passer une demi-heure à faire une revue de presse de est-ce que l'autoroute allait fermer, est-ce que l'autoroute n'allait pas fermer. Bon, voilà.
Tout à fait.
C'est le piège, hein, c'est quand même bien utile jusqu'à ce que ça rencontre un dysfonctionnement. On passe aux actualités logicielles, Pierre.
Ouais.
Mais que se passe-t-il avec Flatpak, à moins que tu voulais parler des quotas.
Peu les quotas, c'est quand même intéressant ça.
Donc en France, les radios ont un quota de 40% de musique francophone, auquel on participe très médiocrement dans cette émission, et je le confesse. Donc, pareil, les chaînes de télévision ont un quota d'œuvres de production française à respecter, alors ce qui des fois a donné naissance à des programmes de très basse qualité par des télévisions commerciales pour remplir les quotas. notamment les sites comme Deuil Productions, tient un peu de ça aussi. Donc, le Québec, eux veulent. Alors, je ne sais pas s'il y a des. Non, je sais qu'il y a des lois sur les langues au Québec, sur l'usage du français au Québec, donc je suppose qu'il y a des quotas. Mais ils veulent appliquer ça aux plateformes de comme streaming, comme Netflix, par
Netflix,
exemple.
Disney, Spotify et autres. Et donc, en gros, l'objectif de cette loi, c'est d'imposer à ces plateformes un quota minimum de contenu en français. C'est le rendre ce contenu aussi plus visible et s'assurer que alors, la langue française soit respectée. Parce que, ben, contrairement à nous, on considère que ben, voilà, on n'a pas à protéger le français, on n'a pas à protéger la culture ou quoi que ce soit, parce que voilà, en France, bah,
il suffit
parle
de
français.
Voilà, quand je vais faire un peu de French bashing, on voit des niveau moyen chez nous. Bon, le fait de voir l'anglais supplanter le français, ça reste un horizon très lointain. Alors que là-bas, il y a une menace directe.
Tout
ils
à
sont
fait.
Quand même encerclés.
Ils sont encerclés, ils sont minoritaires dans leur propre pays, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, eux font ce que l'on ne fait pas à ce point-là, c'est ils vont voir les plateformes et ils leur disent « Ok, vous devez proposer plus de contenu. » Alors, pour l'instant, la loi n'est pas encore allée jusqu'au bout du processus législatif. Hein. Je ne connais pas assez le processus législatif québécois pour savoir ce qu'il en est. Mais à suivre, mais c'est... Ça serait assez positif,
oui.
Puisque derrière, ça va retomber aussi chez nous.
Oui, je pense que ça peut inspirer certains parlementaires, voire des enfin, ça peut avoir des inspirations en France,
après,
provoquer des inspirations plutôt, si c'est
après,
adopté.
Juste un point quand même, ça serait complémentaire de notre exception culturelle qu'on a déjà en place et qui impose aux plateformes de contribuer à la production de contenu francophone. C'est comme ça qu'il y a des productions de Netflix en français. C'est aussi tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. On leur impose de faire ça.
On revient aux actualités logicielles. Et donc, Pierre, je repose la question. Que se passe-t-il avec Flatpak?
Eh bien, ça craint. Voilà, on passe à l'actualité suivante. Donc, bien. Non, Flatpak, qu'est-ce que c'est? Donc, l'un gros problème des systèmes sous Linux, c'est la diffusion des applications en dehors des distributions. Alors, on pourrait débattre longuement du sujet, ce n'est pas le propos ici, mais les principales solutions disponibles aujourd'hui pour diffuser des applications sous Linux en dehors donc des paquets de distribution, il y a AppImage, Flatpak, Snap. Snap, développé par Canonical pour Ubuntu, est disponible sur quelques autres distributions. Flatpak, développé principalement à la base par des gens de Red Hat, est disponible aussi sur un bon nombre de distributions. Et AppImage, qui n'a jamais été intégré de base dans une distribution, mais qui est disponible aussi sur un ensemble de distributions. Et donc, à chaque fois, le principe de ces logiciels-là, c'est d'avoir toute une partie aussi de sandbox, d'isolation des applications, etc. Ben parce que nos PC Linux, un peu comme les PC sous Windows, les applications ont un accès open bar, et c'est assez problématique. Et ben là, clairement, aujourd'hui, un gros problème, c'est qu'on peut considérer que Flatpak n'est plus développé activement, et ça va être de plus en plus problématique, notamment sur la partie son. Flatpak n'utilise pas les dernières solutions, il y a toujours des problèmes avec les pilotes de cartes graphiques Nvidia, la gestion de la séparation réseau est toujours compliquée, il y a tout un ensemble de choses qui mériteraient d'être travaillées, mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui travaille sur Flatpak. Donc on tombe à la fois sur qui c'est qui bosse sur les logiciels libres, et qui est capable de bosser sur ça?
Les développeurs sur leur temps libre.
Bah, et là, voilà, Flatpak jusqu'à maintenant, c'était surtout du Red Hat qui bossait dessus, mais ils n'ont plus forcément ça dans leur priorité. Et Red Hat, ils ne travaillent pas à des masses sur le desktop. Canonical, ils contribuent rarement à des projets extérieurs, ils se concentrent sur leurs propres projets. Ils les mettent en libre, mais ça reste leur propre projet à la base. Il n'y a plus grand monde pour bosser sur Flatpak, effectivement. Et donc, bah, qu'est-ce que ça va devenir? C'est une grosse interrogation qu'on peut avoir.
Alors, Snap Flatpak a été conçu pour répondre à une problématique, c'est que dans les distributions Linux, dans le monde BSD également, on a donc la distribution centralisée des logiciels. Donc, pour pouvoir installer un logiciel indépendamment du reste, donc à la Windows, on a créé donc ces outils. Et Microsoft pourrait faire donc le chemin inverse. Pierre.
Alors, ils en sont pas là, hein, faut pas exagérer. Mais
tout cas, ils pourraient intégrer une gestion centralisée de paquets.
Ils s'intéressent pour ça à deux aspects. Donc, ils aimeraient bien permettre... En fait, le principal élément qu'ils souhaitent faire, c'est permettre aux applications d'être mises à jour à travers Windows Update. Ce qui serait effectivement assez révolutionnaire. Vous lancez Windows Update et ça peut mettre à jour vos applications sur votre ordinateur. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer. C'est aussi incroyable que quand on est sous Linux, qu'on lance les mises à jour et qu'on fait « Oh, ça met à jour tous mes logiciels, dis donc, voilà. » L'idée, c'est d'essayer peut-être de faire ça. Donc, pour le coup, Microsoft donc, a déjà essayé par le passé avec donc, Windows Package Manager qui était connu sous le nom de Winget. Mais en fait, c'était juste un truc qui téléchargeait les installeurs des applications et qui les lançait sans afficher l'interface d'installation. Donc, ça ne servait à rien pour ce problème. Et donc, Microsoft a décidé de concurrencer Winget en redéveloppant une nouvelle solution qui soit peut-être intégrée à Windows Update. Mais... Encore une fois, ça va être un peu le bazar, forcément, parce que Microsoft ne va pas forcément abandonner complètement Winget. Il faudra voir si les applications vraiment participent à ça, si les développeurs font la bascule. Ça reste à suivre.
Pierre, une dernière news.
Une dernière news, laquelle va-t-on prendre ? On va prendre SteamOS. SteamOS, donc le système d'exploitation de Valve, donc un Linux qui est conçu pour les jeux vidéo, qui était utilisable uniquement pour le Steam Deck jusqu'à maintenant, eh bien c'est une bonne nouvelle. Il est enfin disponible au téléchargement pour tout le monde si vous souhaitez l'installer sur votre ordinateur. Alors, il n'y a pas de garantie que ça gérera tout le matériel. Hein. Steam Deck est testé avant tout avec des consoles et du matériel embarqué donc qui tourne avec des processeurs AMD et des cartes graphiques AMD. Aucune garantie que ça marchera bien avec des cartes Nvidia, aucune garantie que ça marchera partout, etc. Mais vous pouvez le télécharger et l'installer. Si vous voulez, vous créez votre propre console de salon juste en achetant un ordinateur. Et vous claquez SteamOS dessus et vous avez l'équivalent d'un Steam Deck dans votre salon pour jouer sur votre télé.
Un petit point sur l'agenda avant de nous quitter. À Croix, ce sera le mardi 3 juin de 19h à 22h au Petite Cantine 3, Place des Martyrs. Donc, Croix, c'est entre Lille et Roubaix, pas très loin de nos studios. Donc, un atelier low-tech organisé par l'association Célix. Et comme tous les derniers mardis du mois, donc ce sera le 24 juin, on vous rappellera lors de la prochaine émission, donc la permanence de l'association Ch'tinux de 20h à 22h au Café Citoyen, Place du Vieux Marché aux Chevaux, avec, comme toujours, des boissons bio et équitables. C'était le 285e numéro de l'équipe de Gnou. Nous nous retrouvons dans deux semaines pour le 286e. Nous serons donc le dimanche 15 juin. On sera presque à l'été, ce sera presque la fête de la musique.
Ce sera l'avant-dernière, je crois.
L'avant-dernière de la saison, très probablement. On vous dira quand on arrêtera la saison. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute avec Chupa Pimento juste après. Donc ce sera de l'électro, comme d'habitude. Et nous vous souhaitons une bonne fin de week-end, bon dimanche, au revoir à tous.
Salut.
L'écho des Gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le livre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des guillemets.
Les enfants de la gauche ne battaient plus le pavé, mais se donnaient rendez-vous pour un McDo ciné.
Vous écoutez Radio Campus.